RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Véronique Rigolet. Notre deuxième invité dans cette deuxième partie est Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et candidat aux élections législatives sous les couleurs, bien sûr, de la France insoumise. Et vous êtes candidat en Seine-Saint-Denis. Bonsoir, Alexis Corbière.
À Montreuil.
À Montreuil, voilà. Emmanuel Macron a choisi un Premier ministre de droite. On l'écoute. Il était hier soir sur TF1.
Je crois qu'il a très tôt, et notamment compte tenu des conditions de son élection, compris qu'il fallait qu'il poursuive le mouvement audacieux qu'il avait engagé et qu'il fallait qu'il s'inscrive dans, non pas du tout une logique d'ouverture, mais une logique de recomposition de la vie politique. Ce que je vais essayer de construire avec lui pour faire réussir le pays, c'est une majorité avec des gens qui, issus de la droite, comme je le suis, et des gens qui, issus de la gauche, comme lui peut l'être, avec des gens qui viennent de la société civile et qui n'ont pas jusqu'à présent formulé un avis partisan, vont essayer de faire avancer le pays. Ça ne s'est jamais fait.
Alors ça ne s'est jamais fait. Un Premier ministre de droite qui divise les Républicains, un Parti socialiste qui éteint doucement la lumière. Craignez-vous, vous aussi, l'effacement de la France insoumise sur l'autel de la recomposition? Ou bien vous dites, bah c'est chouette, c'est tout à fait ce qu'il nous fallait pour incarner l'opposition, rien de mieux qu'un Premier ministre de droite?
C'est tout l'inverse qu'une crainte, au contraire. Je dirais presque, je vois une vertu à ce qui est en train d'avoir lieu. Il y a des phénomènes de clarification politique où des gens qui pensent la même chose décident de gouverner ensemble. Tant mieux. Ce que supportent plus les Français, c'est les postures. Des fausses oppositions, en vérité, on l'a vu avec le gouvernement de M. Hollande. Il menait des politiques où, franchement, quand on est de droite, il y avait de quoi souvent approuver. Peut-être pas sur tous les détails, mais sur les grandes orientations. Et on l'a vu. Donc c'est assez logique. Monsieur Macron était secrétaire général de l'Élysée au début du mandat de Monsieur Hollande, un des ministres importants du gouvernement de Monsieur Hollande. Et il a, en quelque sorte, aujourd'hui, agi avec la façon, on pourra le détailler, qui était assez innovante. Il y a un vieux monde politique qui s'effondre. Ça et vous... des forces politiques nouvelles apparaissent. En marche en est une, nous en sommes une autre. Et puis il y a encore aussi, il faut voir, l'extrême droite qui est là, etc. Donc moi, dans ce désordre général, il y a des choses maintenant qui doivent être claires. Si vous ne voulez pas de la politique qui est annoncée par M. Macron, il y a un enjeu extraordinaire, et j'ai envie de dire excitant presque, à l'occasion de ces élections législatives, qui ne seront pas, comme c'était parfois le cas avant, avec le quinquennat, écrasé par la dynamique. Tout est possible. Moi, je ne souhaite pas, parce que, mais avec beaucoup de respect vis-à-vis du nouveau président de la République et même du Premier ministre, je le dis clairement, je ne suis pas d'accord avec la suppression soit de 125 000 postes de fonctionnaires, comme le propose M. Macron, voire même de 300 000, comme le propose M. Édouard Philippe, qui était quand même...
Donc vous faites fi de l'arrivée d'Édouard Philippe.
Pardon ?
Vous faites fi de l'arrivée d'Édouard Philippe, ça ne change en rien à votre position par rapport à
Macron. Ah ben non,
enfin,
je crois que...
Vous ne tirez même pas un certain bonheur de se dire, bah, vous voyez, c'est à la fois la droite, la gauche, c'est même pas un argument pour votre campagne.
Ben, ce qui est un argument pour la campagne, c'est dire à nos concitoyens, mettons de la clarté dans tout ça. Êtes-vous pour ou contre le nucléaire, par exemple? Moi, je suis écologiste. Monsieur Édouard Philippe est connu pour être un très pro-nucléaire. Monsieur Macron aussi, d'ailleurs. Bon, ben, si vous êtes pour le nucléaire, votez Édouard Philippe. Et puis tout ça. Et puis.
Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il a travaillé chez Areva?
Notamment. Et puis, les positions qu'il a défendues, il a travaillé chez Areva, par ailleurs. Il a eu des déclarations très pro-nucléaire. Mais c'est une position politique. Enfin, je veux dire, je crois que oui, là-dessus. Mais... Puis, je répète, par exemple, lui, il était pour supprimer 320 000 postes de fonctionnaires comme porte-parole dans la Juppé. Moi, je pense qu'à l'inverse, il faut arrêter cette saignée. Il faut même en créer des postes de fonctionnaires. Je suis pour défendre le code du travail qui protège les salariés. Lui, il était pour remettre en cause les 35 heures, etc. Enfin, il y a là autant d'éléments. J'ai envie de dire, bon, non, arrêtons le folklore, parlons sérieusement. Ce sont des positions que je respecte. Je suis en radical désaccord et je propose que démocratiquement, tranquillement, à l'occasion des élections de juin, les citoyens puissent trancher ces affaires-là.
Mais paradoxalement, vous reconnaissez qu'un nouveau monde est en train d'émerger. Oui. Hein, ça, vous le dites. Mais est-ce que vous, du coup, vous ne donnez pas l'impression d'être à la traîne de ce renouvellement inéluctable et d'une brutalité, d'une opposition politique que les Français ne veulent plus voir?
Je crois pas. Moi, je dirais, pardon, être à la traîne, 19,58% 7% au premier tour des élections présidentielles.
C'est quatrième quand même.
7 millions de voix, oui. Bah, à 600 000 voix, vous aviez le classement.
620, oui, voilà.
Alors, 620 000 voix, si vous voulez me rentrer dans le détail. Mais c'était soit Mme Le Pen, soit M. Fillon, soit Jean-Luc Mélenchon. Les choses ne sont pas passées très, très, très loin. Pour une force comme nous, où nous avions peu de moyens, quasiment aucun parlementaire, évidemment aucun soutien, de, comme on l'a vu, de membres du gouvernement, etc. Mais on l'a fait avec cœur, avec nos idées, et je crois qu'on a marqué la campagne. Voilà, ça s'est joué à peu, nous aurions pu être au second tour, les choses ne sont pas passées ainsi, soit. Mais le vieux monde est tout de même s'est effondré. Observez, et ça c'est fondamental, que lorsque vous additionnez ce que représente le Parti Socialiste plus les Républicains, qui représentent 85% de la représentation parlementaire, ils font moins de 20% des électeurs inscrits à l'occasion de cette élection
présidentielle. C'est un des faits de ce scrutin, l'effacement
voilà. Du parti. Donc ça montre qu'un vieux monde s'en va, et avec lui, je crois aussi, des institutions que les gens ne veulent plus, qui... Bon, donc, il y a un nouveau monde à construire, mais là aussi, la politique est en horreur du vide. Si ce nouveau monde ne se construit pas sous une version humaniste, écologique, favorable à la 6ème République telle que je le propose, ça peut être aussi demain des forces d'extrême droite qui l'emportent. Les gens veulent que ça change. Et je crois que M. Macron se trompe, fondamentalement, s'il pense qu'il y a une adhésion à son projet. Il y a eu d'abord un rejet, et c'est heureux, de Mme Le Pen à l'occasion du second tour.
Et justement, est-ce que vous parlez de Marine Le Pen il a fait un très bon score, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'absence du Front Républicain, c'est vrai que la position de Jean-Luc Mélenchon n'ait pas été hyper claire entre les deux tours, laissera pas de traces?
Non, moi je le vois, vous savez, à Montreuil et Bagnolet, quand je fais campagne, beaucoup de gens me disent ils n'avaient pas envie de voter pour Monsieur Macron, d'autres m'ont dit qu'ils ont voté pour Monsieur Macron, mais tout le monde comprend bien que c'est pas avec Édouard Philippe et Monsieur Macron qui veut remettre en cause le code du travail que les 5 ans qui viennent vont être heureux. Les gens en ont marre qu'on leur sorte un peu Madame Le Pen comme un bulldog en leur disant attention, votez pour casser le code du travail, sinon je lâche le chien. Bon, beaucoup de gens n'aiment pas l'extrême droite, mais n'ont pas envie non plus d'être amenés à cette dualité terrible. Je répète qu'avant tout, ce pays, moi, le pays que j'ai vu, c'est le pays des 9 millions de pauvres, c'est le pays des 6 millions de chômeurs. C'est pas un pays qui dit soit la xénophobie, soit l'ubérisation ou la précarisation de la société. Je le dis à Monsieur Macron à travers votre antenne, il se trompe s'il croit qu'il a une majorité politique pour mener sa politique. Mais ce que je dis là est un
peu... Ça va pas marcher l'attelage avec Edouard Philippe.
Non, moi je prends les paris que dans moins de 6 mois, ce gouvernement, s'il agit dans le sens qu'il l'a annoncé, il peut y avoir une Assemblée nationale en juin, majoritairement autour de la France Insoumise. Qui empêche tout ça. Mais s'ils agissent dans le sens qu'ils disent, je prends les paris, et vous me réinviterez que dans 6 mois, ou même à l'occasion des vacances de Noël, leur impopularité sera terrible. Car tout ça est de briquet de broc. Enfin, ou du moins, c'est une politique de droite que les gens, moi je le répète, que je n'ai pas vu dans le pays une majorité qui me dit oui, il faut remettre en cause le code du travail, il faut baisser les heures supplémentaires, il faut remettre en cause les 35 heures, il faut supprimer les postes de fonctionnaires. Partout, les gens disent notre hôpital est en danger, nos écoles n'ont pas assez d'enseignants, des policiers nous disent je ne supporte plus de travailler dans ces conditions. Ils sont où ces 125 000 postes de fonctionnaires qu'ils veulent supprimer?
Malgré tout ça, Emmanuel Macron est devenu président. Comment vous jugez ses premiers pas? Bon, il y a eu Édouard Philippe, on en a parlé. Il y a un gouvernement qui va se mettre en place. Le président a choisi de prendre 24 heures de plus pour faire vérifier les déclarations fiscales.
C'est heureux.
Qu'un président Mélenchon, bon, qui est passé à 620 000 voix près, aurait pu prendre. C'est quelque chose que vous partagez, vous dites c'est bien. Alors, qu'on vérifie un peu avant.
Oui, ne perdez pas de vue que si nous avions été élus, si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, nous aurions mis en œuvre la 6ème République. Nous ne sommes pas pour cette monarchie présidentielle que le jeune roi Macron utilise à plein, pardon, sur les symboles. C'est un homme très intelligent, très cultivé, c'est ce qu'il fait. Tout de même, se promener comme ça dans le décor du Louvre, et avec une pompe particulière, bon, etc. Il sait ce qu'il fait, mais moi, à titre personnel, étant un bon vieux républicain, étant plutôt sensible aux images de populaires, je suis pas trop là-dedans, mais on verra.
Vous seriez allé où, vous, à la Concorde?
Moi, j'aime bien la place de la Bastille, j'aime pas cette espèce d'homme seul, marchant comme ça, au milieu d'un palais royal, avec, bon, voilà. Mais, à la limite, tout ça, c'est de la symbolique.
La monarchie républicaine, c'est pas votre
côté. Et c'est un peu ce qu'on voit. Hier, tout le monde savait que c'était Édouard Philippe. Enfin, vous les premiers. Enfin, moi, je n'en sais pas plus que ce que dit la presse. On a attendu cette espèce. Bon.
Oui, pour 6 secondes.
Voilà. Franchement. Bon. Alors là, si on me dit que le temps qu'ils prennent, c'est pour vérifier les casiers judiciaires, chacun les déclarations, ça, je suis favorable. Je suis pour. Même si je suis en désaccord politique, j'espère qu'au moins ce sera mené par des gens honnêtes, auxquels, au-delà du désaccord politique, on n'ira pas en plus trouver des choses qui sont désagréables. Ça participe.
On va parler des législatives. Donc, vous comptez prendre le leadership de l'opposition, mais si vous n'êtes pas représenté suffisamment à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ferez glisser cette opposition dans la rue?
Attendez, déjà,
est-ce que le combat sera dans la rue, en quelque sorte?
Il y a plusieurs choses. Premièrement, Il y aura plusieurs nuances de Macron, comme dirait l'autre. Peut-être pas 50, mais au moins 3. Il y aura le soit vous votez républicain, et en gros, j'écoute les républicains, qui disent qu'il faut exister, mais qui seront prêts pour certains à apporter un soutien à M. Macron.
La droite modérée, en tout cas.
Puis le PS, qui est aussi dit peu ou prou la même chose, même si les amis de M. Hamon parlent fort, mais en gros, ce que dit M. Cambadélis, les gens qui dirigent ce parti, c'est bon, il faut des députés PS, mais qu'on soutiendra Macron. Et soit vous avez en marche. Il y a tout ça. Et puis il y aura un vote clair, je le répète, comme je disais tout à l'heure, qui ne se veut pas être un vote d'opposition. C'est pourquoi, non pas que je vous reprends, mais moi je veux être majoritaire. Je ne me vis pas d'ores et déjà comme une opposition ou une minorité à M. Macron, mais comme je le dis aux Français, vous pouvez le faire ça du moins le 11 et 18 juin avec le bulletin de vote France Insoumise, être majoritaire. Donc à nous de le prouver, mais c'est ce que je propose aux Français. Vous pouvez éviter ça, vous pouvez avoir la cantine gratuite, vous pouvez avoir l'augmentation de salaire, vous pouvez avoir l'écologie, la 6ème République avec France Insoumise. Si vous voulez ce que propose M. Macron, votez pour eux et les trois partis qui le soutiennent et qui aimeraient colorer un peu de façon différente. Ça c'est une chose. Deuxièmement, eh bien, si nous l'emportons pas, eh bien nous verrons à partir de là les rapports de force, le fait que tout de même nous puissions rentrer à l'Assemblée nationale, une force comme la nôtre serait un événement. L'homme que je suis, pardon, et je pense à moi, je suis un peu égoïste, mais ayant été porte-parole de 5 campagnes, si le bonheur de l'élection faisait de moi un nouveau député, si on est nombreux, eh bien ce sera un beau symbole de cette campagne, d'une réussite, d'une continuité, et nous ferons entendre, nous porterons des projets. Après vous me dites la question des mobilisations. Moi, je ne me prends pas pour un dirigeant syndical. J'accompagne les mobilisations sociales. Mmh. Elles seront peut-être nécessaires. Nous verrons. Mais moi, je suis d'abord un responsable politique qui pense qu'avec le bulletin de vote, au mois de juin...
Vous n'avez pas mobilisé les syndicats, par exemple,
Mais vous savez bien qu'ils
réforment le Code du travail.
Monsieur Martinez, monsieur Mailly, ne prennent pas ses ordres, leurs ordres. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Ils seraient fort fâchés que je donne cette impression. Les organisations syndicales vont juger en fonction de ce qui sera proposé. Mais elles ont eu la clarté quand même de dire qu'attention, après s'être mobilisées contre la loi El Khomri, une loi El Khomri plus amènera une mobilisation plus. Bon,
on est là. Ce que ferait un Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pour tenter que vous puissiez imposer une cohabitation au président Macron, comment il se comporterait? C'est vrai que, évidemment, cette réforme du code du travail va arriver très vite, hein, c'est dans l'agenda législatif. On sait qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est dans la Creuse.
Bien sûr.
Il est chez cet équipementier automobile. Les salariés sont en grève depuis 4 mois. Ils ont placé, disent-ils, des bonbonnes de gaz prêtes à exploser dans toute l'usine. Est-ce qu'un Premier ministre, supposons Mélenchon, comment gérerait-il une telle crise?
C'est-à-dire?
Par exemple, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, en campagne pour les législatives et chez cet équipementier, avec des salariés, en grève.
Là, je ne connais pas tous les détails, mais il y a un patron qui se comporte fort mal, quasiment en étant en situation de partir, de faire partir l'outil de travail. Et à juste raison, il s'agit de dire pour les salariés, il est hors de question qu'il y ait ce vol de l'outil de travail, parce que l'usine peut rester et il y a de l'emploi possible et des richesses possibles.
Un Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, agirait comme aujourd'hui le candidat Mélenchon législative.
Ah, mais moi, je propose.
Soutenir, c'est un peu la question.
Je propose que quand on est en responsabilité, on ne fasse pas des choses différentes que quand on est candidat, c'est désagréable. Et je crois d'ailleurs, je verrai d'un bon oeil qu'il y ait un ministre du Travail qui aille sur place dire aux salariés, vous avez raison de défendre votre emploi. Et il est honteux que des gens délocalisent des machines pour aller dans des pays où on travaille moins. Et comme Français, comme responsable politique, comme dirigeant politique, je dis non. Et je j'aide à ce que la puissance publique
fasse ça. C'est la phrase de lancement. Et après, vous faites quoi? Qu'est-ce que ferait un Premier ministre Mélenchon dans une cohabitation avec le président Macron face à ce genre de problème dans les entreprises?
Mais premièrement, le Premier ministre Mélenchon, il mettrait en œuvre le fait que la délocalisation, que ce qui aujourd'hui permet, vous savez, vous avez une situation où les traités européens eux-mêmes interdisent l'harmonisation fiscale et sociale. D'accord? Ça pose un problème. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui profitent de ces traités de l'Union européenne pour délocaliser à l'étranger. C'était le cas, vous savez, des Whirlpool qui vont aller en Pologne. Bon, le Premier ministre Mélenchon, lui, prendrait la tête d'une mobilisation et puis d'une délégation politique pour aller voir les différents responsables de l'Union européenne pour dire, cette organisation-là, l'Europe, nous amène dans le mur parce que chez nous, nous avons nombre de délocalisations. Donc, on pourrait très bien interdire déjà le fait qu'il y ait à ce point-là une possibilité que uniquement pour la recherche du profit, on délocalise les entreprises.
C'est un travail de longue haleine, hein.
Ah,
on ne répondra
pas
aux priorités de ces entreprises.
Tout ça est de longue haleine. Mais le laisser faire aussi, parce que je veux bien le laisser faire aussi, nous amènera dans le mur. Et je crois qu'on peut aussi considérer que l'intérêt général interdit à ce que on délocalise des entreprises, qu'on amène à l'étranger de l'outil de travail, quand effectivement la seule recherche c'est le profit, que va rester sur le carreau plusieurs centaines de personnes, ce qui coûte fort cher à la collectivité. Donc on peut très bien réquisitionner par moment, lorsque c'est nécessaire, chercher des acteurs économiques nouveaux pour entrer éventuellement dans le capital d'entreprise, voire même ce que nous proposons, des scopes, des sociétés coopératives, avec le fait que les salariés puissent eux-mêmes comment dirais-je, je suis en train d'oublier le terme et je m'en excuse, exproprier, mais c'est pas le terme.
Il y aurait quasiment une réponse individuelle à chaque entreprise en crise.
Vous avez des entreprises qui sont viables bien souvent, et vous avez les salariés sont disponibles eux pour reprendre l'entreprise, considérant c'est le cas des Fralib, vous savez, cette société de
prêt. Je vois bien la réponse personnalisée du Premier ministre.
Il peut y avoir par moment une entreprise qui n'a aucune viabilité économique devant lequel il faut s'incliner. Mais quand vous avez des gens, je connais bien le cas des Fralib par exemple, qui disent mais nous du thé, chez nous on peut en faire, on a des acteurs, nombre les entreprises, les centres commerciaux du coin sont prêts, et on veut pas partir en Pologne, ben là faut aider, la puissance publique doit aider, et les salariés doivent avoir la possibilité de pouvoir gérer collectivement cette entreprise. Il y a là des projets qui sont formidables, et je crois que la puissance publique doit aider, le préfet doit aider, et éviter que ces patrons voyous en quelque sorte mettent sur le carreau des gens. Ça nous coûte très cher à la collectivité, le chômage.
On va passer à l'Allemagne, vous le savez, Emmanuel Macron a vu Angela Merkel hier et il semble obtenir des choses, des Allemands, une refondation de l'Europe, une Europe plus keynésienne, plus sociale, un plan de relance, des protections commerciales, la possibilité de changer les traités, a dit Angela Merkel. Alors comme quoi, quand on ne les reprend pas à brousse-poil, les Allemands, on peut obtenir des choses.
J'ai pas entendu la même chose, mais on va voir. Vous savez, hier, il y a eu une gigantesque opération de communication, il était merveilleux, j'ai eu même Madame Merkel qui parlait du charme personnel de Monsieur Macron, quasiment.
Actuel, hein.
Quoi ?
C'est factuel.
Non, mais j'entends bien. Mais enfin bon, comment dirais-je, même si Monsieur Macron a beaucoup de charme, très bien, c'est heureux pour lui, je le félicite.
Pour une première rencontre, ça.
Non, mais j'entends bien. Mais vous et moi, nous avons l'expérience de tout le monde. On va demander, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. J'ai entendu en même temps, de la part de Madame Merkel ou même Monsieur Schäuble, dire qu'il était hors de question que la France ne respecte pas ses engagements. J'ai entendu beaucoup de fermeté. Donc dans toutes ces affaires-là, on va juger sur pièce. Et je n'ai pas entendu, en vérité, Madame Merkel, ou même Monsieur Macron d'ailleurs, vouloir sortir de la doxa qui était celle jusqu'à présent. Mais on va en juger sur pièce, une fois qu'au-delà des premières rencontres protocolaires et des embrassades et des saluts de circonstance, on rentre un peu dans le dur.
Ouais,
là, on est pour l'instant dans une opération générale de communication, et je ne crois pas que quiconque en vérité veut remettre en cause les traités.
L'affichage du couple franco-allemand qui s'est joué hier.
Écoutez, même si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, ça commence toujours d'abord par une rencontre, ça c'est clair.
Il aurait sans doute été charmant avec la chancelière,
je le souhaite, mais nous lui aurions dit des choses plus claires que ce qu'a dit M. Macron. Nous lui aurions dit, écoutez, Mme Merkel, ces traités qui nous coûtent cher à la France, c'est-à-dire toutes ces délocalisations que j'ai évoqué, le fait qu'il soit interdit.
Elle a évoqué la possibilité de changer les traités, que c'était une possibilité. Donc
dans quel sens ?
Il y a de la souplesse. Ah bah ça.
Après, ah oui, c'est tout le sujet. Mais j'entends bien. Mais moi j'avais entendu de la part de Monsieur Schäuble où il voulait même augmenter les sanctions vis-à-vis de ceux qui ne respectaient pas les politiques d'austérité. Si c'est pour aller vers plus d'Europe libérale.
Mais c'est ce que vous voudriez, une Europe plus keynésienne, une Europe où il y ait de la relance, des plans d'investissement sur le climat, sur Erasmus, sur la défense.
Vous avez entendu vraiment tout ça hier. Vous avez entendu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, je crois.
Non.
Ah, mais j'ai peut-être moins suivi.
Non, j'entends bien. Mais sur le plan de relance, on a compris l'ébauche peut-être d'une nouvelle relation qui partait sur des bases que vous n'auriez pas reniées. C'est ça que je veux.
Moi, je ne veux pas être sectaire. Comment dirais-je? Je n'y crois pas, mais je veux d'abord juger sur pièce pour que ceux qui nous écoutent trouvent intérêt à cet échange. Hier, il y a eu une convergence, dans un premier temps amicale.
Est-ce que vous n'êtes pas contre tout, en fait? J'ai le sentiment de vous écouter depuis ce matin, depuis tout à l'heure, pardon, on est un peu fatigué, où vous reconnaissez qu'effectivement un nouveau monde émerge, mais vous le refusez, dans le fond. Vous le refusez,
j'en suis un des acteurs. Non, mais Monsieur Macron, sa politique, c'est le vieux monde. C'est la continuité de ce qui se fait. J'espère que vous l'entendez. C'est on continue le productivisme,
vous
le nucléaire.
Dire économiquement, c'est
l'essentiel. Non mais écoutez, ce changement politique, c'est le personnage de Tancrède dans Le Guépard, vous savez, où Alain Delon s'adressant à Bertrand Castor, lui dit voilà, si tu veux garder le contrôle de la situation, il faut que tout change. Il faut qu'on change de costume. Mais on le voit, c'est intéressant. le gouvernement, demain, j'en prends les paris pour l'essentiel, ce sera des vieux chevaux qui seront présentés, comme Jean-Yves Le Drian y sera, et toute une série de gens qu'on connaît par cœur. Même si M. Édouard Philippe est un homme, moi je le respecte, il a l'air d'avoir beaucoup d'intelligence.
Attention, il est barbu comme vous.
Il est barbu. Non, mais en plus, moi je le connais pas, qu'il a un certain humour, un bon imitateur, et puis c'est un homme intelligent. Moi j'aimerais surtout que mon opposition, elle soit prise de la même façon que j'invite un peu de respect me concernant, mais même si moi je suis rude dans l'échange, je respecte les gens, je les prends au sérieux. Monsieur Macron, j'ai eu l'occasion de le voir, de lui parler. Mmh. C'est un homme qui...
Vous êtes
qui...
le gentil de la France insoumise.
Mais pas du tout, mais moi je suis pour l'écologie, je suis pour le partage des richesses, je suis pour la solidarité, je suis pour la fraternité. C'est eux qui sont les contre, qui toujours nous expliquent qu'il n'y a qu'une chose qui est le profit, l'argent, la rentabilité. Eux, ils sont contre tout. Nous, on leur dit, mais regardez, on peut juger quand même sur pièce, 1 million de chômeurs supplémentaires.
Ouais.
1 million de chômeurs supplémentaires lorsqu'il y avait M. Juppé en responsabilité.
Merci.
C'est eux qui sont contre, chaque fois qu'on propose une idée de solidarité.
Merci beaucoup.
Le bonheur et les jours heureux, c'est nous. Pardon.
Merci beaucoup Alexis Corbière, merci Véronique Rigolet. On se retrouve très vite. Merci à Audrey Yatoni et Pauline Hellmann d'avoir préparé cette émission.